On s'entretient maintenant avec Dominique Viennot, qui est directeur général du regroupement des usagers du transport adapté du Québec. Bonjour.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même?
Oui, ça va, ça va.
On va parler de transport adapté pour faire changement parce qu'il y a quand même des enjeux au niveau du transport adapté encore aujourd'hui. Il y a plusieurs organismes qui parlent d'un recul du transport adapté au niveau de la qualité des services.
Oui, effectivement. Ben, écoutez, nous, la RUTAC, donc effectivement, on est un regroupement provincial, hein, de regroupement qui assure la défense des droits des usagers du transport adapté. Et effectivement, on est présent, on a 18 membres sur l'ensemble du Québec et l'ensemble des régions rencontrent aujourd'hui une dégradation systémique de ce service public.
Effectivement, vous le dites bien, hein, c'est un service public et on rappelle que ça sert à pallier le fait que les personnes en situation de handicap là, ne peuvent pas toujours prendre le métro ou l'autobus parce que ce n'est pas adapté, alors que c'est un service qui devrait être donné à tous les citoyens.
Ben, tout à fait. Donc c'est effectivement, ça devrait être un service essentiel parce qu'on le voit quand il y a des grèves dans le transport à Montréal, tout le monde chiale en disant ah, mon Dieu, j'étais obligé de m'arranger à essayer de trouver un taxi ou prendre un vélo ou faire du covoiturage et c'était l'horreur. Mais la question est que pour utiliser le transport adapté, déjà il faut être éligible.
Oui.
Selon une procédure spécifique et une politique d'accessibilité hein, au transport adapté qui fait qu'on doit suivre un cursus pour être éligible à ce service. Et donc, une fois qu'on a passé toutes les étapes, c'est vraiment une éligibilité qui fait que vous avez accès à ce mode de transport parce que vous ne pouvez pas utiliser d'autres modes de transport. Et aujourd'hui, même, il y a une tendance à essayer d'orienter vers le transport collectif public, mais de toute façon, même s'il était accessible de manière universelle, il y a des critères dans le transport adapté qui font que c'est vraiment un service main à la main, porte à porte, donc très personnalisé, d'aide à la personne. Et c'est un service qui nécessite réellement un service dédié, en fait.
Ben, vous dites bien, en fait, même s'il y a transport public général, donc le métro et les autobus étaient adaptés, on aurait quand même besoin de transport adapté, mais reste que les besoins seraient moins grands, là, parce que on le dit aussi, ce qu'on entend beaucoup, là, c'est oui, mais les personnes qui ont le transport adapté font justement du porte-à-porte, finalement, se font reconduire à la maison. Donc, c'est un luxe, finalement. On devrait pas se plaindre. Alors que, dans les faits, la plupart des usagers du transport adapté préféraient ne pas avoir besoin de ce transport-là, étant donné que c'est quand même très rigide là, comme service.
Alors... Oui, mais alors donc on est vraiment dans du service à la personne. Alors c'est pas un luxe, hein, c'est vraiment parce que il y a pas d'autre moyen. Il y a à peu près six typologies hein, de personnes qui utilisent le transport adapté. C'est pas uniquement des personnes qui vont avoir une incapacité physique ou qui se déplacent en fauteuil, ou il y a des personnes qui vivent avec un stress permanent, il y a des personnes qui vivent avec un spectre de l'autisme, il y a des personnes qui ont des incapacités cognitives. Donc on parle de personnes qui vivent aussi avec un Alzheimer. Il y a plein de typologies. Ouais. De clientèle et qui, de toute manière, ne pourrait pas prendre le transport tel qu'il est. Donc, ce qui est certain, c'est que pourquoi nous, on s'implique autant dans la défense des droits ? Parce que le Québec, c'est un des seuls endroits au monde où c'est un droit qui est enchâssé dans la loi et dans la politique. Donc, c'est des droits qui sont reconnus et qui, en plus, quand ils ne sont pas, quand on arrive avec un manque de service, en plus, on vient aller contre le principe de la Charte des droits et libertés. Oui. Et là, ça pose un problème parce que à partir du moment où il y a un manque de service, on atteint directement aux droits fondamentaux finalement des citoyens et des citoyennes du Québec. Et là, c'est la Charte des droits qui se vient complètement toucher sur les droits à la dignité, droits à l'égalité, droits à la liberté. On n'a pas encore fait d'enquête systémique sur ces questions-là, mais c'est quelque chose auquel on réfléchit parce qu'il y a un vrai problème dans le système aujourd'hui. Il y a une dégradation systémique du service public de transport adapté.
Et la STM souhaite privatiser le transport adapté, entre autres par les minibus. On a dit que le transport adapté par minibus serait en 2026 100% privatisé. En quoi, selon vous, ça va affecter le service?
Oui, alors eux-mêmes se défendent de parler de privatisation. Alors, je sais que c'est un grand débat dans nos discussions parce que c'est certain que dans le cadre de l'harmonisation des services sur le territoire de la RTM, on parle toujours d'un transport adapté qui est géré par la STM ou qui est géré par la RTM. Alors, aujourd'hui, c'est la STM qui va prendre le lead. Mais c'est sûr qu'il y a une impartition des services, comme ça se fait déjà, malheureusement, comme ça se fait déjà dans quasiment toutes les régions du Québec, c'est-à-dire que la loi oblige les MRC à avoir un service de transport, notamment de transport adapté, et ce service-là, il va être imparti à une organisation à but non lucratif ou à un transporteur. Donc il y a des opérateurs de transport qui, de gré à gré, signent un contrat avec la MRC pour rendre le service. Donc c'est dans ce sens-là que la STM prennent des prestataires externes au lieu d'avoir leur propre personnel. Mais c'est vraiment une tendance qu'on voit partout au Québec. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle nous, on bloque quand même, dans le sens où c'est toujours orienté vers une optimisation des coûts.
Oui.
Alors, on comprend qu'il y a besoin de faire, dans des cadres de crise budgétaire, qu'il y ait une optimisation des coûts. On le voit dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans tous les services publics. Donc, tout le monde lutte pour dire, OK, les services publics méritent d'avoir l'investissement et le financement qui est suffisant. Mais dans le transport adapté, c'est un des derniers endroits où on devrait faire des coupures en raison de problèmes budgétaires, parce que les personnes qui l'utilisent n'ont pas d'autre choix. Il faut vraiment voir aussi que en investissant pas dans le transport adapté, il y a des coûts induits, il y a des coûts parce que on coupe la participation sociale de citoyens et citoyennes. Oui. Et du coup, ils ne peuvent pas aller travailler, donc ils ne payent pas d'impôts, ils ne dépensent pas, ils ne peuvent pas consommer. Il y a des coûts induits de santé, ils ne peuvent pas aller se former, donc forcément, ils vont avoir moins de diplômes, donc vont être moins employables sur le... Donc, on coupe vraiment une participation citoyenne, une participation sociale, et forcément, il y a des coûts induits à couper la participation sociale de citoyens. Et vous posez la question sur les enjeux d'impartir finalement au privé ce service, comme ça va se faire effectivement par la STM, ça se fait, mais ça se fait un peu partout au Québec. La problématique, c'est qu'effectivement, on va se retrouver de gré à gré avec un contrat, avec un fournisseur, et il y a plein de régions au Québec où il y a un seul fournisseur, et évidemment, il fait appuyer le beau temps. Évidemment, oui. Il va dire, moi j'ai l'obligation d'avoir 45 heures par semaine, je les fais, je peux les faire en 3 jours, pourquoi je ferai le samedi et le dimanche, pourquoi, voilà, et puis, et la problématique, c'est qu'ils font l'appui et le beau temps, et c'est eux qui ont le gros bout du bâton.
Donc, au niveau du service, ça impacte la qualité du service au niveau, vous en parliez tout à l'heure, là, au niveau du quai en main ou du rapport très, très personnel là, entre l'usager et la personne qui fait le transport.
Oui, comme tout service privé, comme les services d'aide à la personne aussi, aide à domicile, à partir du moment où on impartit. Moi, j'aurais une entreprise, j'aurais envie de faire des bénéfices.
Oui, voilà.
Forcément. Donc, en impartissant une société dont l'objectif est de faire des bénéfices, c'est certain qu'il peut y avoir, on peut s'inquiéter sur des coupures sur la qualité, sur le temps de service, sur la formation. Alors, même si la STM tient à avoir des formations à la hauteur, tient à, dans ses contrats, imposer des indicateurs de performance, mais ça reste que on donne un service public géré par des entreprises privées. Et donc, ça ouvre la porte à tout excès, quoi.
Toutes sortes de débordements, puis après, la STM n'a pas toujours un gros bout, tu sais, vous l'avez dit, la STM ou autre ville, d'ailleurs, là, n'a pas toujours un gros bout du bâton, là, étant donné que ils ont peut-être pas d'autres choix, là, pas d'autres fournisseurs, là.
Non, c'est ça, et c'est là où on parle, nous, on se pose de plus en plus la question, effectivement, de problématiques en termes de dégradation systémique de ce service. Parce que c'est quand même la base, c'est quand même des questions de financement aussi. C'est-à-dire que le gouvernement, en sous-finançant de manière chronique ce service public, forcément, sous-financement, ça devient un facteur de dégradation des services.
Oui.
Et on se retrouve dans des situations absurdes, où quand on parle, par exemple, avec les RTM, qui disent, comprenez-nous, on nous demande de faire des économies, donc comment on peut rendre le service avec moins d'argent, comment on peut, en gros, faire avec moins.
Oui.
Mais c'est pas comme ça qu'on devrait prendre le sujet. On devrait dire, OK, à RTM, STM, toutes les sociétés de transport, les opérateurs, de dire, ça coûte combien pour avoir un service de qualité, sécuritaire, qui se donne partout en région, où on peut aller d'une région à une autre sans poser de questions, où chaque citoyen peut avoir une capacité sociale pleine et entière, ça coûte combien ? Ensuite, on investit ce que ça coûte.
Ouais.
Mais on ne va pas dire on en met moins et puis après essayer de faire bien avec ça. Bah, forcément, on va vers des baisses de qualité et à un moment donné, vers des problèmes de sécurité. On va finir par avoir des gros soucis en termes de sécurité dans les services.
Et vous l'avez dit, en fait, c'est un peu comme ça qu'on réfléchit partout dans les services au Québec. Et je veux vous entendre aussi en terminant sur les processus de plainte, parce que il y a un problème au niveau des processus de plainte et au niveau, vous l'avez dit, de la sécurité. Et on dirait que j'entends de plus en plus de problèmes au niveau de la sécurité de gens qui se sont sentis agressés ou qui se sont sentis qui n'étaient pas en sécurité, mais que le processus de plainte ne leur rend pas justice, en fait. Hein. Ils ne souhaitent pas porter plainte parce que le processus de plainte est mal pensé, en fait.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des choses qui vont bien dans le sens où, quand ça se passe bien, les chauffeurs bien formés de transport à tête deviennent des vrais amis. Hein.
Oui.
Il y a une vraie relation directe humaine. Hein. C'est un métier de lien humain qui se crée. Donc, quand ça se passe bien, ça se passe bien. Mais effectivement, en raison de manque de chauffeurs, en raison parfois de manque de formation, en raison de manque de véhicules et puis de chauffeurs qui tournent parce que les conditions sont pas forcément intéressantes ou bonnes, c'est-à-dire que ce sont des métiers qui ne sont pas valorisés alors que c'est des métiers essentiels. Et donc quand il y a des soucis, effectivement, aujourd'hui dans le processus de plainte, en fait, les opérateurs de transport se trouvent jugés partis, ou les sociétés de transport, c'est-à-dire que les plaintes, vous devez les déposer auprès de la société de transport ou de l'opérateur. Et forcément, il y a une peur de discrimination, il y a une peur d'être ostratisé derrière,
oui,
en disant oui, je donne peut-être pas mon nom, mais quand je dis que ça s'est mal passé à tel endroit, à telle heure, dans tel type de véhicule, il est clair que le chauffeur, il comprend vite de qui il s'agit. Donc, la problématique est que les plaintes n'émergent pas. C'est-à-dire que moi, tous les regroupements, notamment de la RUTAC, qui sont quotidiennement en défense de droit, nous disent il y a des plaintes, mais quand on demande à la personne, on dit on peut t'accompagner, c'est le métier vraiment de ces regroupements d'usagers, on peut vous accompagner pour déposer la plainte. Ils disent non, j'ai pas envie que ça me retombe dessus,
ouais.
J'ai pas envie que de toute façon ça changera rien. Et donc faire sortir la plainte, c'est vraiment difficile. Et ça, c'est un vrai problème aussi systémique, parce qu'à partir du moment où on n'ose pas mettre de l'avant un dysfonctionnement du système, là, ça va carrément contre une perte de vivre ses droits.
Ouais.
C'est une perte complète, notamment de l'article 1 de la Charte des libertés, sur la sécurité, l'intégrité, la liberté. C'est-à-dire que la santé physique et mentale des usagers est directement impactée par le système de dépôt de plainte. Donc nous, à la RUTAC, ça fait des années qu'on revendique une gestion autonome des plaintes, donc soit par des ombudsman, soit par une structure autonome qui ne s'occupe que de manière autonome à gérer les plaintes et les transférer aux sociétés de transport ou aux opérateurs.
Vous l'avez dit, en fait, hein, c'est un problème de sécurité, en fait. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Vierneault. Vous êtes directeur général de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec, donc la RUTAC. Et puis, on va espérer que les choses s'arrangent et qu'on ait plus d'argent dans cette enveloppe-là pour 2026. On verra ce que ça donne. Merci beaucoup de votre travail.
Tout à fait. Et puis, on a monté toute une coalition avec la CRIF, l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées, et puis avec la COFAD, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Donc, on a monté une coalition transport adapté, une alliance, pour pouvoir justement porter une campagne et aller demander à tous les partis politiques, parce qu'il ne faut pas se tromper, la décision, elle est politique. Donc demander à tous les partis politiques que dans leur plateforme, ils adressent la question du transport adapté et que face à leurs engagements, ils prennent vraiment des mesures concrètes.
On va suivre ça de près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Au revoir.